Étape vers la paix intérieure. Principe harmonieux pour la vie humaine par Pèlerin de paix. Dans ma jeunesse, j'ai fait deux découvertes très importantes. Tout d'abord, j'ai découvert que gagner de l'argent était facile. En second lieu, j'ai découvert que gagner de l'argent et le dépenser sans discernement n'avait aucun sens. Je savais que je n'étais pas ici pour cela. Mais à cette époque, c'était il y a plusieurs années, je ne savais pas exactement pourquoi j'étais ici. Une recherche très approfondie du sens à donner à ma vie me conduisit, le lendemain d'une nuit entière passée en forêt, à un point que je sais aujourd'hui avoir été un bond psychologique très important. Je me suis sentie totalement prête, sans la moindre réserve, à donner ma vie, à consacrer ma vie au service. Je vous l'ai dit, ce fut un point de non-retour. Après une telle expérience, on ne peut plus revenir à une vie centrée sur soi-même. C'est ainsi que j'abordais la seconde phase de ma vie. Je commençais à vivre de manière à donner ce que je pouvais donner au lieu de prendre ce qu'il m'était possible de prendre. Je pénétrais dans un monde neuf et merveilleux. Ma vie commença à prendre un sens. Je reçus la grâce merveilleuse d'une excellente santé. Depuis, je n'ai eu ni rhume, ni maux de tête. La plupart des maladies ont des causes psychologiques. C'est à ce moment que je réalisais que ma vie sera consacrée à travailler pour la paix dans tous les domaines. La paix entre les nations, la paix entre les groupes, la paix entre les individus et la très, très importante paix intérieure. Un long chemin sépare néanmoins le désir de donner sa vie du don lui-même. Pour moi, cela représenta un écart de 15 années de préparation et de recherche intérieure. Pendant cette période, j'ai pris connaissance de ce que les psychologues nomment ego et conscience. Je commençais à réaliser que c'est comme si nous avions deux personnalités ou deux natures ou deux volontés avec deux points de vue différents. Étant donné ces différences, je sentis alors une lutte dans ma vie au cours de cette période entre les deux personnalités et leurs deux points de vue. Il y a eu des hauts et des bas. Et au milieu de ce combat, je vécus l'expérience d'un sommet merveilleux. Pour la première fois, je sus ce que c'était la paix intérieure. Je ressentis une unité avec tous mes frères, les êtres humains, une unité avec toute la création. Depuis, je ne me suis plus jamais sentie vraiment séparée. Je pouvais retourner encore et encore à ce merveilleux sommet. Je pouvais y rester durant des périodes de plus en plus longues et n'en sortir qu'occasionnellement. Alors, arriva un merveilleux matin où je sus, en me levant, que je n'aurais plus jamais à redescendre dans la vallée. Je sus que pour moi la lutte était terminée, que j'avais enfin réussi à donner ma vie et à trouver la paix intérieure. Ce fut encore un point de non-retour. Je ne pouvais plus jamais retourner au combat. La lutte était maintenant terminée, parce que j'accomplirais la bonne chose sans avoir besoin d'y être poussée. mais mon développement ne se termina pas pour autant. De grands progrès se sont installés dans cette troisième phase de ma vie. C'était comme si le motif central du puzzle de ma vie était complet, clair et immuable, et que des pièces pouvaient s'ajouter dans la bordure. Il y a toujours un côté qui grandit, mais le développement est harmonieux. J'avais l'impression d'être constamment enveloppé par toutes les bonnes choses comme l'amour, la paix et la joie. Cela ressemble à une enveloppe protectrice dans laquelle une confiance inébranlable permet d'affronter toute situation qui se présente. Ceux qui te voient de l'extérieur peuvent estimer que tu as de grands problèmes, mais cette source interne d'énergie te permet de résoudre facilement ces problèmes. Rien ne paraît difficile. Le calme, la sérénité et le sentiment de ne plus être pressé t'habitent. Il n'y a plus de lutte ou de tension pour quoi que ce soit. La vie est pleine, la vie est bonne, mais elle n'est jamais encombrée. J'ai appris une chose très importante. Si ta vie est en harmonie avec ta place dans le plan de la vie, et si tu respectes les lois qui régissent cet univers, ta vie est alors pleine et bonne, mais non encombrée. Si elle est encombrée, c'est que tu en fais plus que ce qui est bon pour toi, plus que ce qui est ton travail à faire dans le plan total des choses. À présent, la vie ne consiste plus à prendre, mais à donner. Dès que tu te concentres sur le don, tu découvres ceci. De même que tu ne peux rien donner sans recevoir, tu ne peux rien recevoir sans donner. Même des choses merveilleuses comme la santé, le bonheur, la paix intérieure. Tu ressens une énergie infinie, inépuisable, aussi inépuisable que l'air. Tu as l'impression d'être directement branché à la source de l'énergie de l'univers. À présent, tu contrôles ta vie. Tu vois, l'ego ne contrôle jamais. L'ego est contrôlé par les désirs de confort et de bien-être du corps, par les exigences de l'esprit et par les explosions des émotions. Mais la nature la plus élevée contrôle le corps, l'esprit et les émotions. Je puis dire à mon corps, couche-toi ici sur ce sol de ciment et endors-toi. Et il m'obéit. Je puis dire à mon esprit, oublie tout le reste et concentre-toi sur ce travail. Et il obéit. Je puis dire à mes émotions, restez calme, même devant cette terrible situation. Et elles sont calmes. C'est une manière différente de vivre. Le philosophe Thoreau a écrit, si un homme ne suit pas le rythme de ses compagnons, c'est peut-être qu'il a choisi une autre voie. Maintenant, tu suis une autre voie, celle de ta nature supérieure et non plus celle de ta nature inférieure. Ce n'est qu'à cette époque, en 1953, que je me suis sentie conduite, appelée ou poussée à entreprendre mon pèlerinage pour la paix dans le monde, un voyage au sens traditionnel. La tradition du pèlerinage veut que l'on parte à pied, avec foi, dans la prière, pour rencontrer les gens. Je porte une tunique avec une inscription dans le but d'entrer en contact avec les gens. L'inscription sur le devant est « Pèlerinté ». Je considère que c'est désormais mon nom. Il souligne ma mission plutôt que ma personne. Sur le dos de la tunique, il est inscrit « 40 000 km à pied pour la paix ». Le but de cette tunique est simplement d'établir des contacts. Lorsque je marche sur les autoroutes et dans les villes, les gens m'abordent constamment. J'ai alors l'occasion de parler de paix avec eux. J'ai parcouru 40 000 km à pied, sans argent. Je ne possède que ce que je porte sur moi et transporte dans mes petites poches. Je ne suis membre d'aucune organisation. Je marche jusqu'à ce que l'on m'offre un abri. Et je jeûne jusqu'à ce que l'on m'offre à manger. Je poursuivrai mon pèlerinage jusqu'à ce que l'humanité découvre le chemin qui conduit à la paix. Et je puis dire, en toute honnêteté, que j'ai reçu tout ce dont j'avais besoin pour mon voyage, sans avoir rien demandé. Ceci montre combien, en réalité, les êtres humains sont bons. Je porte toujours sur moi mon message de paix. Voici le chemin qui conduit à la paix. Surmonte le mal par le bien, le mensonge par la vérité, la haine par l'amour. Ce message n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est le mettre en pratique. Sa mise en pratique n'est pas requise seulement sur le plan international, mais aussi sur le plan personnel. Je crois que la situation dans le monde est un reflet de notre propre immaturité. Si nous étions des êtres harmonieux, avec plus de maturité, la guerre ne poserait aucun problème. Elle serait impossible. Nous pouvons tous travailler pour la paix. Nous pouvons y travailler là où nous nous trouvons, à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que plus nous avons de paix en nous-mêmes, plus nous rayonnons cette paix dans les situations extérieures. En fait, je crois que le désir de survie nous poussera vers une sorte de paix mondiale instable qui, pour durer, devra s'accompagner d'un grand réveil intérieur. Je crois que la découverte de l'énergie nucléaire nous a fait entrer dans une ère nouvelle. Cette ère nouvelle nécessite une renaissance pour nous élever à un niveau de conscience supérieur. C'est pourquoi mon premier objectif est la paix intérieure comme étape vers la paix dans le monde. Lorsque je parle des étapes vers la paix intérieure, j'en parle à l'intérieur d'un cadre, mais le nombre d'étapes est arbitraire. Il peut y en avoir plus ou moins. Ce n'est qu'une façon de parler du sujet, mais ceci est important. Les étapes vers la paix intérieure n'ont pas à être franchies dans un ordre donné. La première étape pour l'un pourrait être la dernière pour un autre. À chacun de choisir comme première étape celle qui lui semble la plus facile. Dès que l'on a franchi quelques étapes, les autres semblent plus faciles. Dans ce monde, nous pouvons réellement partager. Personne parmi vous ne doit se sentir appelé à entreprendre un pèlerinage, et je n'essaye pas de vous y entraîner. Mais nous pouvons collaborer à la recherche d'une harmonie dans nos vies. Je crois qu'en m'entendant aborder l'une ou l'autre des étapes vers la paix intérieure, vous reconnaîtrez des étapes que vous avez également franchies. J'aimerais d'abord évoquer quelques préparations qui m'ont été nécessaires. La première préparation est une attitude juste face à la vie. Cela signifie ne fuis plus la réalité, ne vis plus superficiellement. Il y a des millions de gens qui vivent ainsi. Et ils ne trouvent rien qui ait réellement de la valeur. Accepte d'affronter ouvertement la vie. Quitte la superficialité et va en profondeur, là où se trouve la vérité et la réalité. C'est ce que nous faisons maintenant. C'est en cela que réside toute l'essence d'une attitude valable face aux problèmes de la vie. Si seulement tu pouvais voir l'ensemble de la situation, si seulement tu pouvais connaître toute l'histoire, tu comprendrais que tu ne rencontres jamais aucun problème qui n'ait son utilité dans ta vie, qui ne puisse contribuer à ta croissance intérieure. Lorsque tu perçois cela, tu considères chaque problème comme une occasion déguisée. Si tu renonces à affronter les problèmes, tu erres dans la vie et tu ne peux grandir intérieurement. Ce n'est qu'en résolvant les problèmes, en accord avec la connaissance la plus élevée, que nous pourrons croître intérieurement. Les problèmes de la communauté doivent être résolus collectivement. Et personne ne trouve la paix intérieure s'il évite d'apporter sa contribution à la solution de problèmes collectifs comme le désarmement et la paix mondiale. C'est pourquoi nous devons toujours réfléchir ensemble à ces problèmes, en parler ensemble et travailler à leurs solutions. La seconde préparation consiste à mettre notre vie en harmonie avec les lois qui régissent l'univers. Il n'y a pas seulement le monde et les créatures qui ont été créées. Il y a également les lois qui les régissent. Ces lois s'appliquent aussi bien dans le domaine physique que psychologique. Elles déterminent le comportement humain. Si nous comprenons ces lois et accordons nos vies avec elles, nos vies deviendront harmonieuses. Si nous désobéissons à ces lois, nous nous créons des difficultés. Nous sommes nos pires ennemis. Si nous ne sommes pas en harmonie, par ignorance, nous souffrons. Mais si nous le demeurons en connaissance de cause, nous souffrons beaucoup plus. Je reconnais que ces lois sont bien connues et généralement admises. Alors, elles n'ont qu'à être aussi bien vécues. Ensuite, j'ai travaillé à un projet très intéressant. C'était de vivre selon toutes les bonnes choses auxquelles je croyais. Je ne me suis pas embrouillée en les essayant toutes à la fois. J'ai plutôt commencé à cesser de faire ce que je savais devoir ne pas faire. J'ai toujours fait un abandon rapide. Tu vois, c'est la voie facile. Y aller progressivement est long et difficile. Lorsque je n'avais pas fait quelque chose que je savais que j'aurais dû faire, je le faisais immédiatement. La vie prend un certain temps pour rattraper la foi, mais c'est possible. Aujourd'hui, si je crois à quelque chose, je le vis. Autrement, cela n'aurait aucun sens. En vivant selon la connaissance la plus élevée que j'avais, j'ai découvert que plus de connaissances m'étaient données. Et cela m'a ouverte à recevoir plus de connaissances. Ces lois sont valables pour chacun d'entre nous. Et ce sont des choses que nous pouvons étudier et au sujet desquelles nous pouvons parler. Mais il y a aussi une troisième préparation qui, elle, concerne quelque chose d'unique à chaque être humain. Chacun d'entre nous a une place bien précise dans le plan de la vie. Si tu ne sais pas encore très bien quelle est ta place, je te propose de tenter de la trouver dans un silence réceptif. C'est lorsque je marche au milieu des merveilles de la nature, ouverte à tout, silence, que j'ai de merveilleuses intuitions. Lorsque tu fais toutes les bonnes choses auxquelles tu te sens appelé, même si au début ce ne sont que de très petites choses, tu commences à jouer le rôle qui t'est attribué dans le plan de la vie. Tu donnes à ces bonnes choses la priorité dans ta vie sur les choses superficielles qui troublent généralement la vie humaine. Il y a des gens qui savent et qui n'agissent pas. C'est très triste. Je me souviens d'un jour où je marchais le long d'une autoroute. Une très belle voiture s'arrêta à ma hauteur. L'homme me dit: comme c'est beau d'obéir à votre vocation. Je lui répondis: je crois fermement que chacun devrait faire ce qu'il sent devoir faire. Il commença alors à me raconter ce pourquoi il se sentait motivé. C'était une bonne cause qui valait la peine d'être poursuivie. Je m'enthousiasmais vraiment, persuadée qu'il y travaillait. Je lui dis: c'est merveilleux. Et comment faites-vous? Il me répondit: oh, je n'y travaille pas. Ce genre de travail n'est pas rentable. Je n'oublierai jamais combien cet homme semblait désespérément malheureux. Mais vous voyez, à notre époque matérialiste, nous mesurons le succès à l'aide de critères totalement erronés. Nous le mesurons en dollars et en biens matériels. Et pourtant, ce n'est pas dans cette direction que se trouvent le bonheur et la paix intérieure. Si tu crois en quelque chose et que tu n'agis pas en conséquence, tu es vraiment quelqu'un de très malheureux. Il y a aussi une quatrième préparation. C'est la simplification de la vie pour amener le bien-être intérieur et extérieur, le bien-être psychologique et matériel en harmonie dans ta vie. Cela s'est fait très facilement pour moi. Dès que je consacrais ma vie au service, je sentis que je ne pouvais plus accepter plus que ce dont j'avais besoin. Alors que dans le monde, tant de gens avaient moins que ce dont ils avaient besoin. Cela m'amena à restreindre mes besoins aux choses vraiment nécessaires. Je pensais que ce serait difficile et que je traverserais des périodes pénibles. Mais je me trompais. À présent que je ne possède que ce que je porte sur moi et transporte dans mes poches, j'ai l'impression qu'il ne me manque rien. Ce que je désire correspond exactement à ce dont j'ai besoin. Tu ne pourrais pas me faire accepter quelque chose dont je n'ai pas besoin. J'ai découvert cette grande vérité. Des possessions inutiles sont des poids inutiles. Je ne veux pas dire que chacun a les mêmes besoins. Tes besoins peuvent être beaucoup plus grands que les miens. Si tu as une famille, tu as besoin de la stabilité d'un foyer pour tes enfants. Mais je veux dire que tout ce qui dépasse les besoins, et je ne parle pas seulement des besoins physiques, tend à devenir un fardeau. Une vie simple procure une grande liberté. Lorsque j'ai compris cela, j'ai trouvé l'harmonie dans ma vie entre le bien-être intérieur et extérieur. Il me faut ajouter quelque chose d'important, qui ne concerne pas seulement la vie de l'individu, mais aussi celle de la société. En tant qu'humanité, nous nous sommes tellement éloignés de cette harmonie, nous sommes tellement obnubilés par le côté matériel que nous sommes même capables d'utiliser l'énergie nucléaire pour en faire des bombes et tuer les gens. Cela est dû au fait que nous avons tellement négligé notre équilibre intérieur par rapport à notre bien-être matériel. À l'avenir, la recherche valable sera dans le domaine intérieur, psychologique. Nous pourrons alors amener un équilibre entre les deux domaines et utiliser avec discernement le bien-être matériel que nous avons atteint. Je découvris ensuite que diverses formes de purification m'étaient demandées. La première est très simple. C'est la purification du corps. Elle concerne tes habitudes de vie physique. Manges-tu avec mesure, mangeant pour vivre? Je connais actuellement des gens qui vivent pour manger. Sais-tu quand t'arrêter de manger? C'est très important de le savoir. Tes habitudes de sommeil sont-elles raisonnables? J'essaie d'aller tôt au lit et d'avoir beaucoup d'heures de sommeil. As-tu suffisamment d'air pur, de soleil, d'exercice et de contact avec la nature? On pourrait penser que ce domaine serait le premier dans lequel l'être humain accepterait de travailler. Mon expérience pratique m'a montré que c'est souvent le dernier. En effet, cela peut signifier l'abandon de quelques mauvaises habitudes. Il n'y a rien à quoi nous ne soyons plus attachés. Je ne peux assez souligner la seconde purification, car c'est la purification des pensées. Si tu pouvais réaliser la puissance de tes pensées, tu ne pourrais plus avoir de pensées négatives. Les pensées peuvent exercer une influence puissante en direction du bien si elles sont positives. Si elles sont négatives, elles peuvent te rendre physiquement malade. Je me souviens d'un homme de 65 ans qui, quand je l'ai connu, manifestait les symptômes d'une maladie chronique. Je m'entretiens avec lui et je découvre, sans pouvoir tout de suite me l'expliquer, une certaine amertume en lui. Il s'entendait bien avec sa femme et ses enfants adultes, et il s'entendait bien avec son entourage, mais l'amertume était toujours présente. Je découvris qu'il en voulait à son père, mort depuis longtemps, parce que celui-ci avait permis à son frère d'étudier, et non à lui. Dès qu'il arriva à abandonner cette amertume, la maladie s'atténua, et bientôt elle disparut. Si tu éprouves encore la moindre amertume envers quelqu'un, ou que tu as une pensée négative, quelle qu'elle soit, il faut t'en débarrasser rapidement. Elle ne blesse personne d'autre que toi. On dit que la haine blesse celui qui hait et non celui qui haït. Il ne te suffit pas de faire et de dire ce qui est juste. Il te faut aussi penser ce qui est juste pour que ta vie devienne harmonieuse. La troisième purification est la purification des désirs. Que désires-tu? Désires-tu de nouveaux habits ou des plaisirs ou de nouveaux meubles ou une nouvelle voiture? Il te faut atteindre le point où tu n'auras plus qu'un seul désir. Celui de connaître ton rôle dans le plan de la vie et de le remplir. Quand tu y réfléchis, y a-t-il quelque chose d'autre qui vaille vraiment la peine d'être désiré? La quatrième purification est la purification des motifs. Quelles sont tes motivations par rapport à tout ce que tu fais? Si elles ne sont que l'avidité, ou l'égoïsme, ou le désir d'être glorifié, je te dirai, ne fais pas cette action. Ne fais rien pour de tels motifs. Mais ce n'est pas si facile. Car nous faisons les choses avec de bons et de mauvais motifs mélangés. Prenons l'exemple d'un homme d'affaires. Ses motifs peuvent ne pas être des plus élevés. Mais il peut aussi avoir des motivations, comme celle de prendre soin de sa famille. Et peut-être de faire du bien dans sa communauté. Des motifs mélangés. Si tu veux trouver la paix intérieure, ta motivation doit être tournée vers l'extérieur, le service. Elle doit être de donner et non de prendre. J'ai connu un homme, un bon architecte. À l'évidence, son métier lui convenait très bien, mais il exerçait pour de mauvaises raisons, à savoir gagner le plus d'argent possible et s'élever au-dessus du niveau des gens ordinaires. Je l'ai rencontré peu après qu'il se soit rendu malade à travailler. Je l'ai amené à rendre de petits services. Je lui ai parlé de la joie du service, sachant que lorsqu'il aurait goûté une fois, il ne pourrait plus jamais retomber dans une vie entièrement égoïste. Nous avons échangé quelques lettres après cette rencontre. La troisième année de mon pèlerinage, mon chemin me conduisit dans sa ville. Quand j'allais lui rendre visite, je le reconnus à peine. Il avait tellement changé. Il était toujours architecte. Il était en train de tracer un plan et me dit « Vois-tu, je réalise ceci de manière à ne pas dépasser leur budget. » Ensuite, je le construirai sur leur petit bout de terrain pour que ce soit beau. Il travaillait pour rendre service aux gens pour lesquels il dessinait des plans. Il était radieux, une personne que les gens venaient maintenant de très loin pour lui faire dessiner les plans de leur maison. J'ai rencontré quelques personnes qui ont dû changer de travail pour changer leur vie. Mais j'en ai rencontré bien plus qui ont simplement eu à changer leur raison d'agir pour le service afin de changer leur vie. Et enfin, la dernière partie concerne les abandons. Une fois que tu as fait le premier abandon, tu as trouvé la paix intérieure parce que c'est l'abandon de sa volonté. Tu peux t'y exercer en renonçant à tout mauvais projet vers lequel tu te sens poussé, mais sans jamais le refouler. Si tu te sens poussé à faire ou à dire quelque chose qui n'est pas bien, tu peux toujours penser ou dire quelque chose de bien. Détourne-toi consciemment de ce qui est mauvais et utilise la même énergie pour faire ou dire quelque chose de bien. Cela marche? Le second abandon est l'abandon du sentiment de séparation. Au début, nous nous sentons séparés et nous jugeons tout par rapport à nous, comme si nous étions le centre de l'univers. Même après avoir une meilleure connaissance intellectuelle, nous continuons à juger de la même manière. En réalité, nous sommes évidemment les cellules du corps de l'humanité. Nous ne sommes pas séparés de nos frères humains. L'ensemble est une totalité. Ce n'est qu'à partir de ce point de vue supérieur que tu peux comprendre ce que signifie « aime ton prochain comme toi-même ». À partir de ce point de vue plus élevé, il n'y a plus qu'une seule manière réaliste de travailler, et c'est pour le bien de l'ensemble. aussi longtemps que tu ne travailles que pour ton petit moi égoïste, tu n'es qu'une seule cellule contre toutes les autres cellules. Et tu t'exclus de l'harmonie. Dès que tu commences à travailler pour le bien commun, tu te trouves en accord avec tous les êtres humains. Tu vois, c'est la manière facile et harmonieuse de vivre. Il y a un troisième abandon, c'est l'abandon de tous les attachements. Les biens matériels doivent être mis à leur place. Ils sont là pour être utilisés. Il est absolument juste de les utiliser. C'est pour cela qu'ils existent. Mais quand ils ne te sont plus utiles, sois prêt à les abandonner et peut-être à les donner à quelqu'un qui en a besoin. Tout ce que tu ne peux abandonner quand tu n'en as plus besoin te possède. À notre époque matérialiste, plusieurs d'entre nous sont possédés par leurs possessions. Nous ne sommes pas libres. Il y a une autre forme de possessivité. Tu ne possèdes aucun être humain, quel que soit son lien avec toi. Aucun mari ne possède sa femme. Aucune femme ne possède son mari. Aucun parent ne possède ses enfants. Lorsque nous croyons posséder des gens, nous avons tendance à diriger leur vie pour eux. Cela conduit à une situation extrêmement inharmonieuse. Ce n'est qu'au moment où nous reconnaissons que nous ne les possédons pas, qu'ils doivent vivre en accord avec leurs propres motivations intérieures, que nous cessons de vouloir conduire leur vie à leur place. Nous découvrons alors que nous pouvons vivre en harmonie avec eux. Voici maintenant le dernier, l'abandon de tout sentiment négatif. Je n'évoquerai qu'un sentiment négatif que les meilleures personnes continuent d'expérimenter. Et c'est le souci. Je n'entends pas par là le désir de faire tout ce qui est possible de faire dans une situation donnée. Par souci, j'entends le fait de ruminer inutilement des choses que l'on ne peut pas changer. Voici un exemple. On se fait rarement du souci pour le moment présent. Si tu te fais du souci, c'est en général quand tu te tortures avec le passé que tu aurais dû oublier depuis longtemps. Ou alors quand tu appréhendes l'avenir qui n'est même pas encore là. Nous avons tendance à passer très rapidement sur le présent. Mais comme c'est le seul moment qu'il nous soit possible de vivre, si tu ne le vis pas, tu ne pourras jamais arriver à le vivre vraiment. Si tu vis le moment présent, alors tu ne te feras pas de soucis. Pour moi, chaque instant apporte une nouvelle occasion de me rendre utile. Voici une dernière remarque sur les sentiments négatifs qui m'a déjà beaucoup aidé et en a aidé d'autres. Rien provenant de l'extérieur. Rien ni personne ne peut me blesser intérieurement, psychologiquement. J'ai compris que que je peux être blessée psychologiquement seulement par mes propres mauvaises actions sur lesquelles j'ai un contrôle, par mes propres mauvaises réactions, même si elles sont rusées, je peux aussi les contrôler. Ou par ma propre inaction dans certaines situations qui exigent que j'agisse, comme la situation mondiale actuelle. Quelle libération j'ai ressentie lorsque j'ai compris cela. Je cessais immédiatement de me blesser moi-même. À présent, quelqu'un pourrait m'infliger le pire des maux. Je ne ressentirais qu'une profonde compassion pour cette personne tombée hors de l'harmonie, pour cette personne psychologiquement malade, capable de faire des choses mesquines. Je ne me blesserai certainement pas moi-même par une mauvaise réaction d'amertume ou de colère. Tu as le complet contrôle sur le fait d'être blessé ou non psychologiquement. Et à n'importe quel moment, tu peux cesser de te blesser toi-même si tu le veux. Voilà les étapes vers la paix intérieure que je voulais partager avec toi. Il n'y a rien de neuf dans tout cela. C'est une vérité universelle. J'ai simplement parlé de ces choses dans mon langage de tous les jours, à partir de ma propre expérience. Les lois qui régissent cet univers travaillent pour le meilleur, tant que nous leur obéissons. Ce qui s'oppose à ces lois ne peut durer longtemps, car il contient en lui-même les germes de sa propre destruction. Le bon en chaque vie humaine nous permet toujours d'obéir à ces lois. Nous sommes libres de le faire. C'est donc à nous de décider quand nous obéirons et quand nous trouverons l'harmonie à la fois en nous et dans le monde.